Bonsoir. Le chef de l'État congolais a prononcé hier mardi par visioconférence son discours à la 75e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Plusieurs aspects ont été abordés dans son allocution, notamment l'insécurité dans l'est du pays. Félix Tshisekedi, tout en reconnaissant que la situation sécuritaire reste préoccupante dans la partie orientale, demande à la communauté internationale de sanctionner toutes les sources d'approvisionnement et d'appui aux groupes armés. Il plaide aussi en faveur de l'accroissement de la capacité opérationnelle de la brigade d'intervention en la dotant des unités spéciales. Quelle est sur paire des recommandations formulées par le chef de l'État pour amener la paix dans l'est du pays? Nous en parlons ce soir avec Jacquemin Chabani, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il est aussi président de la commission électorale permanente de l'UDPS, parti membre de la coalition au pouvoir. Jacquemin Chabani, bonsoir.
Bonsoir madame.
Grégoire Kiro Tshongo, député national élu de Bénéville au Nord Kivu, il est secrétaire général du parti politique RCD-KML. Grégoire Kiro, bonsoir.
Bonsoir madame et ainsi qu'à tous les auditeurs de Radio Kati.
Et le professeur Chobert Agenonga, professeur à l'université de Kisangani, il est spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de sociologie militaire et de géopolitique. Professeur Agenonga, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous.
Vous êtes nombreux à réagir au thème de ce soir sur le cas de Ngoï Bernard depuis Kalemie. Je pense que le plaidoyer du chef de l'État démontre bien l'incapacité de l'État congolais à sécuriser ses concitoyens, mais aussi l'intégralité du territoire congolais. C'est en quelque sorte un aveu d'impuissance. Honoré Bouka depuis Kinshasa, mon humble avis, le plaidoyer du chef de l'État prouve l'incapacité de l'État et de l'armée à faire face aux groupes armés. Mais j'ai senti aussi l'engagement du président à instaurer la paix. Nous gardons encore espoir et nous avons la foi que l'insécurité prendra fin un jour. Merci de nous suivre à Bounia dans la province de l'Ituri sur la 104.9. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la RDC, réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, stratégie de la RDC pour faire face à la pandémie à coronavirus et ses implications sur le plan politique en passant par l'engagement du gouvernement pour faire face aux effets du changement climatique. Tous ces sujets ont figuré en bonne place dans son discours hier mardi par visioconférence à la 75e session de l'Assemblée générale de l'ONU. On suivait ce condensé du discours de Félix Tshisekedi que nous propose Billy Yvan Lutumba.
Monsieur le Président, en attendant que nous puissions nous convenir sur les contours définitifs de l'avenir de la MONUSCO sur le territoire national, le vœu de la République démocratique du Congo est de voir pendant cette période de préparation à la sortie le renforcement de la collaboration sur le terrain au sein des unités de la MONUSCO et avec les FRDC afin que la puissance de feu attendue pour protéger la population et restaurer la paix, la sécurité et l'autorité complète de l'État sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les localités où la présence des groupes armés est encore visible, soit effective. Ma détermination est de redonner le plus tôt possible le sourire aux populations de l'Est de mon pays qui vivent dans l'insécurité depuis plus de deux décennies. Pour ce faire, la République démocratique du Congo s'inscrit en faveur du principe d'accroître la capacité opérationnelle de la brigade d'intervention, notamment en la dotant d'unités spéciales adaptées à la guerre asymétrique que nous imposent les groupes armés à l'est du pays.
Jacquemin Chabani, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, vous êtes président de la commission électorale permanente de l'UDPS, parti membre de la coalition au pouvoir. La situation sécuritaire dans la partie orientale du pays demeure préoccupante. La paix n'est pas encore totalement retrouvée. Ma détermination est de redonner le plus tôt possible le sourire aux populations de l'Est qui vivent dans l'insécurité depuis plus de deux décennies. Propos du président Félix Tshisekedi à la 75e Assemblée, session plutôt de l'Assemblée générale de l'ONU. Quelle analyse vous faites de ce discours?
Encore une fois, le président de la République démontre sa détermination à réaliser ce vœu, cette promesse de campagne, cette promesse aussi qui s'inscrit dans dans le programme du gouvernement de rétablir la paix et la sécurité dans la partie orientale de la République. Ce n'est pas un aveu d'incapacité, bien au contraire. Le fait d'aller le dire du haut de la tribune des Nations Unies, c'est que c'est la réalité d'un dossier qui ne concerne pas que la République démocratique du Congo, d'une situation qui est aujourd'hui au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, qui concerne la sous-région. Il était important que le président de la République le dise du haut de cette tribune pour que tous ensemble, dans ce concert des nations, nous puissions trouver les solutions les bonnes pour que enfin la paix revienne après plus de deux décennies dans cette partie de la République.
Jacques Machabani, il n'y a pas que les groupes armés étrangers qui sèment l'insécurité dans l'est de la RDC. Nous avons aussi les groupes armés locaux. Vous dites que ce n'est pas une preuve d'incapacité, mais le fait d'aller exposer ça à l'Assemblée générale de l'ONU, est-ce que ça ne prouve pas que l'État et l'armée n'ont pas réussi ou ne sont pas en mesure de mettre fin à ces groupes armés?
Non, il faut considérer que depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi au pouvoir, il a pratiquement orienté sur quatre axes son action en ce qui concerne ce dossier de l'insécurité à l'Est. L'axe principal, c'était celui de renforcer notre propre armée. Et je crois que tous ensemble, nous avons constaté qu'il a mis en place un commandement avancé dans la province du Nord Kivu, dans le Grand Nord. Les commandements ont changé. L'attitude
Mais la situation demeure préoccupante,
oui,
malgré tous ces changements.
L'attitude même de nos forces armées a beaucoup changé parce que lui a redonné le moral d'ailleurs de bien faire son travail. Il y a eu un autre axe aussi qui concerne les troupes armées locaux parce que il est important aussi de discuter avec eux dans ces opérations de désarmement. Et je crois que nous avons constaté dernièrement à Bukavu une grande réunion s'est tenue où tous les groupes armés locaux sont venus y participer et ont pris l'engagement de se désarmer. Mais le président Félix Tshisekedi a aussi pris l'axe d'améliorer nos relations avec en international au niveau de la sous-région, qui est aussi important parce que il est clairement établi l'implication de ces pays voisins dans tout ce qui nous concerne comme AFRE. Il y a les FDLR, il y a la présence des Adersnalou et de toutes ces troupes, même des islamistes. Donc il est important d'ouvrir aussi et d'améliorer les relations au niveau international pour mieux faire les choses. Le président Félix Tshisekedi aussi, au niveau international, a pu améliorer les relations avec la MONUSCO, les Nations Unies, de manière à ce qu'ensemble, nous puissions mieux faire le travail. C'est peut-être des questions stratégiques, mais je crois que un certain appui logistique de la MONUSCO nous a permis de mieux faire les choses. Mais c'est vrai, nous n'avons pas encore atteint notre objectif. La situation perdure encore, donc il nous faut faire mieux. Et je crois que c'est dans ce sens-là que le président de la République s'est permis et a pris la responsabilité de le dire du haut de la tribune des Nations Unies pour qu'enfin, tous ensemble, nous puissions chacun y mettre du sien et arriver à faire que la paix soit une réalité.
Ma détermination est de redonner le plus tôt possible le sourire aux populations de l'Est qui vivent dans l'insécurité depuis plus de deux décennies. On a entendu ce discours il y a presque une année. Il a promis de passer les fêtes des fins d'année avec la population de Beni. Il est toujours attendu jusqu'à ce jour. Pourquoi il n'est plus rentré à Beni, le président de la République, Jacques Chabani?
Nous y étions avec lui il y a quelques mois, à Beni, je crois. Je n'ai pas la date exacte en tête. Il était prévu que le président de la République soit ici à Goma le mardi, donc avant-hier. Non, hier, je m'excuse. Malheureusement, ça n'a pas été possible au niveau de son agenda. De ce que je sais, d'ici deux semaines, le président de la République pourra passer par Goma pour palper du doigt et être en communion avec les populations de l'Est de la République. Se réaliser exactement quelles sont les attentes, discuter avec les différentes couches de la société civile, et faire avancer ce dossier qui le préoccupe à plus haut niveau. Donc je peux vous rassurer que tout est fin prêt, c'est juste une question d'agenda. Le président de la République sera parmi nous ici à Goma dans les prochains jours.
Nous ne pouvons pas arriver à neutraliser les groupes armés sans éradiquer leurs sources d'approvisionnement et d'appui que sont ces réseaux et autres souteneurs. Je lance un appel à la communauté internationale afin que des sanctions appropriées, ciblées, efficaces soient appliquées. Est-ce qu'on connaît ces réseaux et ces souteneurs des groupes armés?
Oui, je crois que des études et des renseignements sont récoltés depuis plusieurs années. La présence, par exemple, des mouvements islamiques, des ADF Nalou, tous ces réseaux de trafic au niveau des frontières en allant vers les zones minières dans les provinces du Kivu, ont clairement établi qu'il y a des réseaux de financement, des réseaux mafieux, qui vont au-delà de nos frontières et qui concernent l'international. Donc pour éradiquer cela, il est important que nous puissions faire participer ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté internationale avec tous les mécanismes établis pour réduire cette capacité de nuisance contre tous ces groupes armés et arriver à les neutraliser pour que la paix soit une réalité dans les contrées de l'Est de la République.
Grégoire Kirochongo, député national élu de Beniville au Nord Kivu, vous êtes secrétaire général du parti politique RCDI-KML. Quelle lecture vous faites des recommandations formulées par le chef de l'État pour ramener la paix dans l'Est du pays?
Je vous remercie. Je dis bonjour aussi à mes co-débatteurs. Je crois que les recommandations faites par le chef de l'État aux Nations Unies concernent plus l'international. Bien sûr que le conflit non seulement à Beni, mais un peu partout à l'Est de la République, revêt aussi un caractère régional et international. Donc c'est bien de faire des recommandations par rapport à la force FIB, c'est bien de faire des recommandations par rapport à la rupture des sources d'approvisionnement de tous ces terroristes. Mais je crois que l'élément fondamental, c'est d'abord les FRDC. C'est une question d'abord nationale. Nous devons mettre sur pied des forces de défense capables de sécuriser le territoire ainsi que de dissuader tout celui qui aurait des velléités de venir faire ses emplettes en RDC. Je crois que l'élément fondamental, c'est plutôt les FRDC qui, comme vous le savez, sont à l'image de la société congolaise. Donc elles sont minées par la corruption, l'affairisme de certains hauts gradés, avec comme péché originel, comme tout le monde le sait, c'est le fait que les FRDC soient le produit des mixages et des brassages qui ont permis à toutes sortes de personnages recommandables ou pas recommandables de se retrouver au sein de notre armée. Il y a même beaucoup d'éléments étrangers qui participent même au commandement. Donc je crois que tous ces éléments-là dont on peut douter de la loyauté vis-à-vis de la République posent problème. Mais il n'y a pas que ces étrangers, il y a aussi parmi nos propres militaires, parmi nos officiers, il y en a qui sont dans l'affairisme. Il y en a qui sont là juste pour s'enrichir et qui se foutent du résultat des opérations. Donc il faudrait qu'à un moment donné, le chef de l'État, garant de la nation, commandant suprême des FRDC, commence à juger les officiers militaires sur leurs résultats. On t'a placé à tel poste de commandement, au bout d'autant de mois, il n'y a pas de résultat, mais non seulement tu es appelé, mais éventuellement sanctionné. Parce que si on continue sur cette lancée-là, avec une armée, avec toutes les tares dont je viens de parler ici, eh bien, elle va rester inefficace, elle sera incapable de ramener la paix, non seulement à Beni, mais aussi dans l'Ituri, dans les autres parties du Nord Kivu, à Likale, au Sud Kivu, dans l'ancien Katanga, etc. Et là, on n'aura pas d'autre choix que de faire recours à une armée ou plusieurs armées étrangères pour épauler notre propre armée. Donc, ça serait quand même une honte suprême. Mais bon, si on continue sur cette lancée, si on prend pas les bonnes réformes, si on ne prend pas des décisions fermes, en tout cas, on va en arriver là où on sera obligé de faire appel à d'autres armées.
Prendre des bonnes décisions, le chef de l'État a procédé au changement au niveau du commandement militaire, justement, pour éviter toutes ces tares constatées. Est-ce que cela n'a pas donné des résultats quand même assez positifs, Grégoire Kirochongo?
En tout cas, en termes de résultats, je suis désolé, mais il n'y a aucun résultat probant. Moi, je parle de la situation que je connais bien, parce que à Beni, par exemple, depuis le lancement des opérations d'envergure en octobre 2019, donc ça fait pratiquement une année, il n'y a aucun résultat. Bien au contraire, on parle de plus de, oui, entre 850 et 900 morts depuis le lancement des opérations d'envergure. L'insécurité n'est plus seulement là où elle était autour de Beni, mais maintenant, on est allé jusque en secteur de Rwenzori. Et même jusque dans la province de l'Ituri. Donc voilà, il n'y a pas de résultat probant, comme disent dans quelle partie de l'Est de la RDC, la sécurité est revenue. Donc jusque là, il n'y a pas de résultat probant. Évidemment, le chef de l'État,
Il a trouvé une armée qui est ce qu'elle est. Il a trouvé des généraux. Il n'en a pas nommé d'autres ou alors très peu. En tout cas, il fait avec ce qu'il a trouvé, mais il faut qu'il sache que c'est quand même lui le commandant suprême des FARDC et que c'est lui comme garant de la nation à qui seront posées des questions. C'est-à-dire que le bilan sécuritaire, c'est à lui, c'est lui qui devra le présenter. Donc il faut qu'il prenne vraiment qu'il prenne le taureau par le corne et qu'il fasse vraiment des réformes profondes au sein de l'armée. C'est-à-dire qu'il y a des militaires dont tout le monde sait qu'ils sont indexés par les Nations Unies. Il y a des militaires qui ont fait leurs preuves dans le sens négatif sur les différents fronts dans le commandement militaire. C'est pas sur cela qu'on doit continuer à compter. Il faut que le chef de l'État prenne le courage de balayer les écuries et voilà de compter sur des gens clean. Voilà.
Et donc pour vous, Grégoire Kirou, tant qu'on gardera l'ossature actuelle de l'armée, on n'a pas beaucoup de chance de voir la situation changer dans la partie est du pays.
C'est ma crainte, parce que madame, figurez-vous que nous, députés nationaux du Grand Nord, nous avions pris l'option l'année passée d'accompagner l'armée, lui demander quels sont ses problèmes afin qu'elle soit plus efficace. L'armée nous a posé des problèmes de moyens. Nous sommes allés voir toutes les autorités du pays, à commencer par le chef de l'État, et les moyens sont sortis. Vous savez ce qui s'est passé ensuite, madame? Il s'est passé ensuite que, dès que les moyens sont sortis, on a constaté, à Beni, la présence de quelque chose comme 15 ou 20 généraux, je ne sais plus, qui se sont rendus à Beni pour 2 ou 3 mois. Et les moyens, là, on n'en a plus parlé. Tout ce qu'on sait, c'est que les opérations ont été lancés avec un grand retard, et le ministre de la Défense l'a lui-même reconnu qu'il y a des détournements de fonds. Le problème, c'est que personne n'a jamais été sanctionné après ces détournements. Donc, tant qu'on continue dans cette logique-là de faire avec des gens dont des gens peu recommandables, eh bien, les choses ne vont pas évoluer, malheureusement.
Professeur Chobert Aguenonga, professeur à l'université de Kisangani, vous êtes spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de sociologie militaire et de géopolitique. Vous avez sûrement suivi le discours de l'État à l'Assemblée générale de l'ONU. Professeur, comment vous analysez ce discours sur le plan sécuritaire, toutes les recommandations faites par le chef de l'État à la communauté internationale?
Bien, en écoutant religieusement les recommandations que le chef de l'État a formulées dans son discours prononcé à marge de la 75e session ordinaire des Nations Unies, force est de constater que la lecture même du chef de l'État repose sur un diagnostic qui contraste étrangement avec les agrégats des temps et du dehors. En d'autres termes, le diagnostic sur lequel le chef de l'État a formulé ses recommandations contraste avec les dynamiques sécuritaires actuelles pour deux raisons majeures. Alors, le chef de l'État propose notamment afin qu'on puisse couper les sources d'approvisionnement des groupes armés, mais cette recommandation prend l'élément sécuritaire sous la seule dimension militaire, alors que la sécurité est multidimensionnelle. Donc, il y a au moins des raisons objectives qui montrent clairement que ces recommandations ne reposent pas sur base solide, alors que ces recommandations devraient plutôt viser les racines profondes, n'est-ce pas, de l'instabilité de la République démocratique du Congo. On doit se poser la question de savoir pourquoi, n'est-ce pas, les groupes armés saisissent-ils en République démocratique du Congo? C'est entre autres à cause du vide sécuritaire causé par l'absence de l'autorité de l'État. J'ai sillonné la partie orientale du pays en devenir une véritable pétodière, donc la zone de non-droit. Vous n'y trouvez pas l'effort de sécurité. Ensuite, il y a une certaine complicité interne même. Les experts des Nations Unies, dans leurs différents rapports, ont clairement montré que certaines sources, n'est-ce pas, d'armes et de munitions ne sont pas qu'externes. Les experts de la Nations Unies eux-mêmes proposaient des sanctions contre les auteurs, n'est-ce pas, de ce trafic des armes. En outre, il faut souligner également le chômage des masses. Aujourd'hui, si on parle des groupes armés, eh bien, ces groupes armés sont majoritairement constitués de jeunes. Mais pourquoi est-ce que les jeunes y abaissent facilement, simplement parce qu'ils ne sont pas encadrés, n'est-ce pas, à cause du chômage de masse. Ça, il faudrait clairement le souligner. Et enfin, le faible contrôle, n'est-ce pas, la faible maîtrise de l'échiquier international. Tous les complots qui sont ourdis contre la République démocratique du Congo aujourd'hui sous l'échiquier international, c'est notamment en cause, n'est-ce pas, à cause de l'absence d'une politique étrangère efficace qui permette à la RDC de contrôler efficacement, n'est-ce pas, la scène internationale. Et dans notre sur notre volet, je voudrais revenir un peu sur la recommandation du chef de l'État pour le renforcement de la capacité opérationnelle de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Je rappelle que ce par la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU du 28 mars 2013 que cette brigade a été mise sur pied avec comme principale mission de neutraliser ce qui était appelé les forces négatives en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, demander le renforcement de cette brigade consiste simplement à formuler le plaidoyer pour la mise éternelle de la RDC sous tutelle internationale. On ne peut pas demander à ce qu'on fasse la capacité opérationnelle de la brigade d'intervention. Par contre, l'État doit plutôt donner le moyen aux forces de sécurité de la RDC au lieu de plaider pour, évidemment, la dotation de cette brigade d'une force spéciale. Il appartient plutôt à la RDC de doter le FRDC d'une force spéciale d'assurer la moindre.
Professeur Aguenonga, je crois qu'on a perdu le professeur Aguenonga. La réalisation va essayer de le rappeler. Jacquemin Chabani, on a beaucoup d'auditeurs qui appellent et écrivent pour réagir au thème de ce soir. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Jean-Baptiste Léni, Nyamoa de Tiris de Kisangani, l'heure n'est plus propice d'appeler la communauté internationale pour décater la situation de l'insécurité en République démocratique du Congo, car la communauté internationale connaît mieux ce qui se passe dans ce pays et existe depuis des décennies et des décennies en République démocratique du Congo. Pour ça, j'aimerais dire que ce n'est pas hyper important de continuer toujours à croire qu'en force de la communauté internationale qu'on peut parvenir à résoudre les problèmes de chez nous, car en amont, les problèmes ne sont pas réglés. Cette communauté internationale, parfois, se montre passive et indifférente de nos souffrances. Nous devons plutôt penser qu'on puisse des solutions à résoudre nos problèmes, c'est-à-dire mettre en place une armée nationale bien équipée, avec toutes conditions, et mettre en place une bonne stratégie pour arrêter l'ennemi. Nous devons arrêter de jouer aux hypocrites ou en complices dans les sécurités de l'Est. Pour clore, nous devons arrêter aussi de donner l'impression de toujours être pleurnichards au vu du monde face à nos défis éternels.
Jacquemin Chabani, vous avez suivi la préoccupation de cet auditeur qui nous a appelé de Kisangani.
Oui, je l'associe à au professeur qui vient de nous quitter, que vous allez retrouver dans
et même à l'honorable à monsieur Kiro Tongo qui a abordé aussi dans le même sens
dans son intervention où il estime ou lui comprend lorsque le président demande à ce que la force d'intervention de la MONUSCO soit renforcée, cette demande voudrait appeler à ce qu'elle soit éternelle et qu'il serait plus important ou plus sérieux pour le président de se focaliser sur les forces armées congolaises. Je crois que c'est une mauvaise lecture de la situation. Tout d'abord, la MONUSCO, elle est ici avec nous sur terrain. Elle a un mandat temporel. Demander à ce qu'on la renforce, ce n'est pas demander à ce qu'elle soit avec nous éternellement. Mais elle est ici sur le territoire congolais, elle a une mission, elle nous aide, et je crois qu'il est aussi important de demander que cette aide-là soit significative, et qu'elle ne soit pas une aide qui apparaît comme de l'accompagnement inutile, où on voit nos populations à tout moment attaquer la MONUSCO parce qu'elle ne comprend pas exactement à quoi sert la présence de la MONUSCO. Ici, le chef de l'État
demande à clarifier cette situation en renforçant non seulement la capacité de ces troupes-là, mais aussi son champ d'action pour que l'accompagnement soit significatif et cela puisse nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous sommes tous nationalistes. J'ai dit ici clairement que le premier axe sur lequel le président de la République s'est focalisé était celui de renforcer nos forces armées congolaises. L'honorable Grégoire, que je salue, a fait allusion à certaines faiblesses de ces forces armées qui ne nous permettent pas d'avancer en termes de complicité dans certains crimes qui mettent toute l'armée en difficulté en termes de coopération. Le président de la République y a travaillé dans l'axe coopération en améliorant les relations de la République démocratique du Congo avec les Nations Unies, avec les pays voisins, et ça a servi. Ça a servi non seulement, par exemple, dans les plateaux du Massissi et du Rutshuru avec les FDLR. Il y a des actes significatifs. On ne peut pas dire qu'on fait du surplace ou qu'on va en reculant. Il y a des actes significatifs. Il est clair aujourd'hui qu'on a réussi à frapper des coups significatifs sur cette bande des FDLR, par exemple, qui aujourd'hui n'a plus la même capacité qu'elle a. Et c'est cela qui nous permet, dans l'axe interne de dialogue avec les troupes armées, c'est ça qui nous a permis de convaincre aujourd'hui un bon nombre de groupes armés locaux à se désarmer, parce qu'elles sont là pour protéger, elles se disent être là dans les différents coins où elles se retrouvent pour protéger les populations locales face aux troupes armées étrangères. Comment vous allez discuter avec elles, comment vous allez les convaincre de laisser les armes aussi longtemps que cette menace est présente? On a réussi, par exemple, dans le plateau de Massissi.
Mais c'est quoi le travail des FRDC? Si la population a commencé à se prendre en charge, ne pensez-vous pas que c'est parce que l'État a failli? Les FRDC n'ont pas réussi à mettre hors d'état de nuire tous ces rebelles?
Mais qui a affaibli les FDLR lorsqu'on a eu pratiquement près de 9 grands chefs des FDLR? L'honorable Kiro est conscient que les opérations que les députés, le groupe parlementaire du Kivu a accompagné les FDLR il y a quelques mois, mais il y a eu des avancées. Il ne peut pas nous dire ici à l'antenne qu'il n'y a pas eu des avancées. Il y a des grands centres comme Madina contrôlés par les ADF qui ont été totalement déstabilisés par nos FARDC. C'est vrai qu'il y a eu un problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, lui le sait très bien qu'il y a des enquêtes au niveau de nos forces armées congolaises très sérieuses et assez avancées sur certains détournements qui ont eu lieu dans ces opérations. On aura les résultats.
Mais en parlant de Madina, on nous a dit qu'on a démantelé le quartier général des EDF. On avait réduit la capacité des nuisances de cette milice. Mais le constat fait aujourd'hui à Beni Jacquemin Chabani, c'est pratiquement le contraire.
Mais effectivement, elles se sont repliées. Et c'est pour cela que le président de la République en appelle à ce que, au niveau international, nous puissions y travailler. C'est dans ce cadre-là aussi qu'il a programmé le mini-sommet qui devait se tenir dans la ville de Goma, mais qui va se tenir en vidéoconférence. C'est toujours dans ce cadre-là. On a démantelé Madina. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont repliés. Ils se sont repliés où? C'est toute la question. C'est tous ces réseaux-là sur lesquels le président est revenu. Et du haut de la tribune des Nations Unies, il en appelle à l'implication de tous. Et je crois qu'il en est de sa responsabilité en tant que garant de la nation de la République démocratique du Congo. Lorsqu'il a identifié un mal, s'il est en international, si c'est au-delà de notre frontière, je ne crois pas qu'on peut résumer cela en une incapacité ou non. Il a pris la hauteur de sa responsabilité.
Grégoire Kirochongo, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient, encore une fois, de Kisangani.
Henri Kasongo Moulin de Kisangani de la province de la Tchopo. C'est une très bonne recommandation qui, à mon avis, nécessite une attention particulière de la part de la communauté internationale. Mais avant d'éradiquer les sources, on doit d'abord les identifier. on ne peut pas éradiquer une chose dont on ne connaît pas. Qu'est-ce que le gouvernement congolais a déjà identifié comme source d'approvisionnement de ces groupes rebelles qui seraient mieux de s'attaquer aux Kurdes avant de s'attaquer aux effets?
Grégoire Kiron.
Oui, je crois que identifier les sources d'approvisionnement, c'est la première des choses avant de parler de les neutraliser. Mais je crois que l'une des sources d'approvisionnement, c'est l'international terroriste. Tout le monde sait que, en ce qui concerne Beni, par exemple, et une partie de l'Ituri, il y a des islamistes qui sont là. C'est une réalité. Il ne faut pas le nier. Hein. Il y a des islamistes qui sont là, même s'ils ne sont pas seuls. Des islamistes. Bon, certaines sources disent même que certains d'entre eux étaient venus du Moyen-Orient, du Proche-Orient, de Syrie, etc. Alors, il faudrait qu'on sache comment ils ont pu traverser toute l'Afrique pour se retrouver à l'est de la République. Donc, voilà. Il y a un travail qui doit être fait au niveau du renseignement, tant au niveau national qu'au niveau international. Et je crois que c'est de cela qu'a parlé le chef de l'État. Donc, c'est ça. Je crois que l'auditeur a parfaitement raison.
Il estime que les autorités s'attaquent plutôt aux effets au lieu de commencer d'abord par s'attaquer aux causes. Il y a même le prof qui l'a soulevé dans son intervention de tout à l'heure. Il faut connaître les racines profondes de l'insécurité au Congo.
Évidemment, les racines profondes de l'insécurité, bon, c'est la pauvreté, c'est comme a dit le prof, le chômage de masse, je veux bien, mais la principale racine, c'est l'absence de l'État. C'est la défaillance de l'État. Il y a des pans entiers du territoire national qui ne sont pas couverts, par l'armée ou par les forces de sécurité. C'est ça le principal problème. Donc, tout celui qui le veut, il peut créer un groupe de 10, 20, 50, 100 personnes et se met la terreur et la zizanie partout où il veut. Donc, c'est d'abord une question de l'État. C'est l'État qui doit d'abord s'assumer. Mais bon, évidemment, cela ne se fait pas en une année. Cela demande beaucoup de temps et ben voilà. Donc, je crois que c'est ça.
Professeur, on vous a perdu. Mais avant de revenir vers vous, on va aussi prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbujimayi.
Depuis la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental, l'insécurité est l'un des facteurs qui favorisent le sous-développement d'un pays. Le président de la République, au lieu de penser d'abord à prendre la main aux puissances extérieures, le président de la République devrait d'abord penser aux enfants de la RDC, parce que si l'armée de notre pays n'est pas bien formée, ou si l'armée de notre pays n'a pas une puissance, même les forces extérieures ne peuvent rien faire. Car s'il y a un problème dans une maison, ce sont d'abord les enfants de cette maison qui doivent d'abord faire quelque chose avant d'abord de tendre la main aux voisins et aux amis. C'est pour ça que le président de la République devrait d'abord penser à améliorer les conditions de vie de nos enfants et ensuite nous pouvons alors tendre la main à l'étranger ou à leur avoir. C'est ça mon avis. Merci beaucoup.
Professeur Agenonga.
Oui, il est fondamentalement important de souligner que la sécurité, c'est une attribution régalienne de l'État congolais. Donc l'État congolais doit s'assumer. Au lieu de formuler le plaidoyer pour le renforcement de la brigade d'intervention de la MONUSCO, il faut donner le moyen, n'est-ce pas, aux forces armées de la République démocratique du Congo, ça on ne le dira pas assez. Et il ne faudrait pas perdre de vue que la MONUSCO vient en appui de nos forces, ça c'est très important. Et on ne viendra pas en appui, n'est-ce pas, à une force désarticulée, à une force, déliquescente. Donc ça c'est une question qui relève de la politique étrangère de la République démocratique du Congo, dont l'un des maillons constitue l'armée. Donc nous devons accorder une attention particulière à cette armée-là, plutôt que de formuler le plaidoyer pour qu'on renforce une brigade internationale, n'est-ce pas, qui a déjà accusé ses forces devant, et qui a accusé ses faiblesses, voulais-je dire, devant les caméras du monde entier. Quand on voit le pays dont est constituée la brigade d'intervention de la MONUSCO, mais on y trouve notamment la Tanzanie, on y trouve le Malawi, on y trouve l'Afrique du Sud. Mais quand on prend un pays comme le Malawi, voyez-vous, est-ce qu'on peut espérer que le Malawi peut être à mesure d'envoyer évidemment des éléments professionnels? Je prends même le placement de 131 puissances militaires à l'échelle mondiale. Le Malawi n'y est pas. le Malawi est le Malawi n'est pas classé. Donc moi je crois que et en plus il est question de du patriotisme. Un militaire qui va au front, il sait qu'il est en train de combattre pour une cause noble, n'est-ce pas? Il est en train de mourir pour sa nation, il est en train de mourir pour sa patrie, mais cela ne vaut pas pour autant à un contingent venu de l'étranger, un militaire qui vient de l'étranger, il ne va pas se faire héros pour la cause de notre pays. Ça, ce sont des facteurs sociologiques fondamentalement importants sur lesquels nous devons miser. Donc le plus important aujourd'hui, c'est d'orienter la réflexion vers les forces, n'est-ce pas, les armées de la République démocratique du Congo, donner les moyens, approfondir la réforme du secteur de sécurité, etc.
Le chef de l'État a donné des moyens au FARDC, professeur Aguenonga, mais malgré tous les moyens mis par le chef de l'État pour essayer de mettre fin ou d'éradiquer ces groupes armés, la situation ne change pas.
Ces moyens, le chef de l'État les a donnés à quelle unité de FARDC? Moi, j'ai été dans l'est du pays, notamment en Ituri. J'en profite pour vous dire que j'ai rencontré des militaires qui sont arrêtés de provisions depuis 8 jours. Des militaires qui n'ont pas de véhicules sur le terrain. Ça, c'est très important, nous devons le dire. Nous avons les militaires qui sont déployés en République démocratique, dans la province de l'Ituri, notamment, qui ont érigé des barrières illicites pour rationner les civils. Et c'est grâce à ces barrières qu'ils parviennent à survivre. C'est grâce à ces barrières qu'ils parviennent à nouer les débuts du mois. Ils n'ont même pas de véhicules. On voit leurs responsables rouler carrosse dans les villes, alors que les militaires qui sont déployés au front, ils n'ont ni mobilité, ils n'ont ni ration, ils n'ont rien, même pas de munitions. Voyez-vous, ces moyens dont on parle, moi je ne sais pas si ils ont été mis à la disposition de quelle unité de l'armée. Et je suis à Ituri pour l'instant, je n'ai jamais vu un seul hélicoptère de l'armée, n'est-ce pas, survoler ou chercher les renseignements sur le terrain. Il n'y en a pas. La question des moyens, ça c'est une question délicate et c'est une question qu'il faudrait relativiser. Si les moyens ont été donnés aux militaires qui se trouvent à Kinshasa, mais tel n'est pas le cas avec les militaires qui sont au fond, qui sont à l'intérieur.
Jacques-Mel Chabani à Alain Kadima qui dit ceci en lisant, en suivant le discours du chef de l'État. Nous comprenons que l'autorité congolaise seule ne suffit pas pour instaurer la paix dans la partie est du pays. Nous concluons que la paix est encore loin d'être instaurée dans notre pays. Ces discours est un message de désespoir. Christian Babunga, Mutima Noir, depuis Bukavu, au lieu de compter sur l'appui de la communauté internationale, il faudrait d'abord organiser nos services de sécurité en leur donnant suffisamment des moyens financiers, humains et matériels. En suivant les analyses des uns des autres, tout le monde insiste sur les moyens, Jacques-Main Chabani.
Oui, j'ai relevé ici que sur cette question, le premier axe sur lequel le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi s'était concentré, c'était notre armée. Mais je crois que tout le monde ne peut pas tout savoir, ou toutes ces informations ne peuvent pas être données à tout le monde.
Mais il y a des gens sur le terrain qui constatent que les FARDC manquent de nourriture, manquent de moyens de locomotion.
Surtout que ce sont des questions sécuritaires. Ici, je vais me focaliser sur ce que l'honorable Grégoire Kiro a dit lui-même. Membres du groupe parlementaire du Nord Kivu, ils ont mené des démarches, ils sont allés partout, mais je crois qu'arrivés chez le chef de l'État, des moyens ont été mis à la disposition des forces armées congolaises. Des moyens conséquents. Des opérations ont été effectuées par nos forces armées conséquentes, nos forces armées congolaises, que le chef de l'État, commandant suprême des armées, est en train de remodeler pour qu'elle ne soit plus la même qu'elle était hier. Je prends à témoin l'honorable Kiro. Il a vécu cela. Il a participé à cette dynamique-là. Lui-même nous l'a dit ici à l'antenne, il y a eu des détournements de fonds. Contrairement à hier, aujourd'hui, il le sait, il y a eu des enquêtes. Des officiers supérieurs de l'armée, hier intouchables, aujourd'hui, des dossiers judiciaires ont été ouverts, ils ont été entendus. Je crois que beaucoup d'entre nous ici et de vos auditeurs ont des informations. Ils ont été mis aux arrêts et les enquêtes se poursuivent. Par là, je veux dire quoi ? Sur ce premier axe sur lequel le président de la République est en train de se focaliser, qui n'est pas le seul, parce que ce n'est pas la seule solution, le président est très préoccupé
à donner à la République démocratique du Congo une armée efficace, une armée nationale, une armée qui défend la République. Il y a des frères et des sœurs, des compatriotes congolais qui sont allés en formation pour ce faire depuis que le président est en fonction. Donc, c'est un axe extrêmement important sur lequel le président se focalise. Ce n'est pas le seul. Tous ensemble, ici, au cours de l'émission, nous reconnaissons que l'international, que l'extérieur, que des forces étrangères sont impliquées. L'un des axes sur lesquels le président s'est focalisé aussi, c'est celui-là. Améliorer nos relations avec la MONUSCO, avec les Nations Unies, pour la faire mieux participer dans cette lutte acharnée à ramener la paix à l'est de la République. L'interpellation que le chef de l'État a fait sous la tribune des Nations Unies était une interpellation responsable.
Merci Jacques-Thomas Chabané. Grégoire Kiro, votre conclusion.
Je crois que le premier axe sur lequel on doit se focaliser, c'est l'armée nationale ainsi que les services de sécurité qui doivent être plus efficaces et qui doivent recevoir aussi plus de moyens. Et à ce sujet, je crois que les moyens ne peuvent venir que de l'État et pas d'ailleurs. Donc voilà pourquoi j'encourage ce que fait le chef de l'État dans sa lutte contre la corruption, parce qu'il a lancé quand même une grande croisade qui ne manque pas d'épines sur le chemin, malheureusement. Il faut absolument renforcer l'armée, renforcer la sanction aussi. La sanction, c'est un élément fondamental. Nous sommes un pays qui a longtemps vécu dans le laisser-aller. Et s'il n'y a pas, tant qu'il n'y a pas de sanctions, en tout cas, rien ne va se passer, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les autres domaines de la vie publique. Voilà pourquoi je suis d'accord avec la politique du chef de l'État qui consiste à lutter contre la corruption. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment. En tout cas, l'armée est inefficace. Il faut qu'elle soit rendue efficace. Et la meilleure des manières, c'est de lui donner des moyens ainsi que de la purger et de sanctionner ceux qui se comportent mal.
Merci Grégoire Kiro. On va prendre une dernière réaction, Maître Edmond Bokolo. Depuis Mbandaka, dans la province de l'Équateur, le plaidoyer du chef de l'État est louable et appréciable, mais je pense que dans un État démocratique comme le nôtre, un tel discours étale négativement les faiblesses du gouvernement congolais qui n'est pas en mesure de prendre sa population en charge en matière sécuritaire. Professeur Aguenunga, votre dernier mot.
La République démocratique du Congo doit s'assumer, on ne le dira pas assez. C'est-à-dire que les solutions aux problèmes sécuritaires auxquels la République démocratique du Congo est confrontée viendra d'abord de la République démocratique du Congo, quand bien même on peut tendre la main à des bailleurs extérieurs, mais néanmoins un certain nombre de mesures s'imposent absolument pour planter durablement le havre de paix en République démocratique du Congo. Premièrement, il faudrait approfondir la réforme du secteur de sécurité de nos forces. Même si on donnait le moyen à nos forces armées, eh bien, il faudrait d'abord professionnaliser, n'est-ce pas, le militaire congolais, ça c'est très important, et assurer la motivation de ces hommes et de ces femmes, n'est-ce pas, qui sont entrés d'abattre un travail de titan sur le terrain, mais aussi la paix durable en République démocratique du Congo passe par les contrôles efficaces des armes légères, et donc du trafic des armes légères et de petit calibre. Mais aussi, certainement, il faudrait relancer l'économie de la loi à ces jeunes-là qui constituent aujourd'hui une main-d'œuvre aux entreprises subversives. Les actes de la politique étrangère de la République démocratique du Congo doivent être repensés. Mais enfin, la justice transitionnelle doit être mise sur pied car tous ces criminels qui sévissent en République démocratique du Congo, la plupart de ceux qu'on a connus, ont bénéficié de l'impunité, et c'est cette impunité qui les encourage.
Merci.
D'où la nécessité de pouvoir évidemment réprimer sévèrement tous ces criminels et bandits de grand chemin.
Merci professeur Aguenunga. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Dona Madimba, Axel Goncho qui m'ont aidé à préparer ce magazine. Polydor Basunga était à la prise de son. Présentation et coordination, Kelly Nkouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.